Mais aujourd'hui, la masse du cinéma français, y compris du cinéma d'auteur, je ne parle pas des grandes productions, ça parle de... On voit peu le monde du travail. Il y a des exceptions. Une exception notable, je suis sûre que dans la salle, il y en a un paquet qui sont allés le voir, c'est un film comme En guerre, avec Vincent Lindon. J'ai zappé le nom du réalisateur. Qu'est-ce que tu en penses de... est-ce que, parce que je crois que pour ton film, ça a été un des premiers en France qui, c'était une fiction, hein, mais qui parlait de... qui montrait le travail ouvrier et qui parlait d'une lutte ouvrière. Bon, depuis, est-ce que tu penses qu'une certaine relève quand même a été assurée, ou alors est-ce que c'est quelque chose qui reste extrêmement bon?
Je pense que ça a été le premier, mais en même temps, il y avait deux points de vue qui s'affrontaient à l'époque entre intellectuels et entre artistes, car Jean-Luc Godard a fait un film sur le même sujet. Il a fait un remake, littéralement, de Coup pour coup, et qui s'appelle « Tout va bien », qu'il a tourné avec Jane Fonda et Yves Montand. Et ça a donné lieu à des oppositions très fortes et des débats très forts parmi les intellectuels. Moi, j'avais dans mon camp Sartre, Simone de Beauvoir et Michel Foucault, et lui, Deleuze et Glucksmann, Guattari. Quelles étaient ces deux positions qui s'affrontaient? C'était les positions sur le rôle des intellectuels et le rôle des artistes. Moi, Jean-Luc Godard, je me sers de cette réalité pour faire un film de Jean-Luc Godard, donc je le fais avec Jane Fonda et Yves Montand, elle en ouvrière, lui, je ne sais plus ce qu'il jouait dans le film, je suppose qu'il jouait le patron. Et moi, je disais non, je mets mes connaissances et mon savoir au service de cette parole inaudible que personne n'arrive à entendre parce qu'elle ne s'exprime pas, mais tout en gardant mes compétences et sans donner la caméra aux ouvriers, autre tendance qui a eu ici à Peugeot avec Chris Parker et le groupe Medellin. Donc c'est très intéressant, évidemment, je ne sais pas qui arrive à l'arrivée, quelle est la bonne démarche. Ce qui est important, c'est ce qui en reste, et ce qui en reste pour les spectateurs, et ce qui en reste par rapport au film. Donc il y avait déjà ces deux positions. Jean-Luc Godard a pris une voie totalement différente de la mienne. Ça ne nous a pas empêché. Ensuite, quelques années plus tard, je fus comme producteur. Un de mes grands succès, ça a été Sauf qui peut la vie, qui était le plus grand succès de Jean-Luc Godard. Et on a fini par se réconcilier autour d'un film. En ce qui concerne le cinéma actuel, la différence, et c'est ça m'a beaucoup frappé quand j'ai vu En guerre, de Stéphane Brisé, c'est que c'est justement c'est une histoire de lutte syndicale à l'intérieur d'une usine, c'est-à-dire c'est un problème presque local qui n'arrive pas à aller au-delà. C'est un problème qui est très 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 sérieux, c'est évidemment les licenciements, le chômage, la façon dont ces licenciements se passent, les contrats non respectés, etc. Mais c'est le héros est un militant de la CGT. Alors que là, on n'était pas du tout dans ce contexte-là. C'était des femmes qui luttaient. C'était des femmes en résistance, des femmes en lutte, qui s'unifiaient et qui menaient une lutte, déjà pour faire libérer leur... pour faire réintégrer leur copine, leurs collègues, mais aussi pour obtenir d'autres conditions de travail, etc. Et c'est dans cette unité, et dans cette prise de parole, et dans cette nouveauté de lutte, parce que je veux bien dire que les femmes, on ne les entendait pas beaucoup à l'époque, et les luttes de femmes, on n'en parlait pas beaucoup, pas plus qu'on parlait des luttes d'immigrés. C'était vraiment des gens qui étaient totalement en dehors de la société, qui étaient interdits de parole. Et donc, la différence, elle est là. C'est-à-dire que pour nous, on ouvrait vers un monde nouveau, sans se soucier d'étiquette. Le film de Stéphane Brisé a immédiatement eu besoin de mettre une étiquette dans la lutte. Il dit que c'est un tel qui a mené la lutte, alors que ce n'est pas là le problème. Le film de Stéphane Brisé, pour moi, se termine sur la désespérance. Et ça, je pense que c'est un vrai problème. Donc je crois personnellement, j'ai toujours tenté d'être dans cette position, un, d'être en marge par rapport au centre, pas pour cela négliger le centre, mais d'être dans une relation constante de débat et de combat avec le centre, en faisant des allers-retours de la marge vers le centre, et de la difficulté étant de ressortir du centre pour repartir dans la marge. En gros, je pense que créer se fait dans la marge, c'est-à-dire se fait contre l'académisme, contre les idées reçues, contre la violence des pouvoirs divers et variés, qu'ils soient financiers ou qu'ils soient idéologiques, et qu'il faut créer à l'intérieur et contre ces pouvoirs. Mais si on ne veut pas être marginalisé, il faut aller porter ce débat, ce combat dans le centre. Le problème, c'est qu'une fois, par exemple, pour un artiste, que vous êtes dans le centre, vous êtes bouffé par le centre et vous êtes très facilement de monter au pinacle. Et on y est très bien, on est très gâté là-dedans, financièrement, intellectuellement, tout. Le problème, c'est qu'on ne crée plus. Et le tout est de revenir à la marge. Et je pense que ce mouvement de la marge vers le centre est indispensable si on veut créer un monde d'avenir. Et donc, se situer dans la marge, excusez-moi, je suis peut-être un peu abstrait, mais se situer dans la marge et mener des combats pour que cette marge, sous toutes les formes qu'elle se présente, les femmes, mais aussi les immigrés, mais aussi les étrangers, etc., etc., soit quelque chose de vivant et mener tous ces combats, parce que c'est par ces combats-là qu'on peut arriver à changer le monde. Et donc, je suis dans l'idée de cette résistance, dans cette histoire de la résistance, parce qu'on a aussi besoin des exemples du passé pour essayer de créer de l'avenir, et je me situe là-dedans, en sachant que c'est extrêmement difficile, parce qu'on est dans un monde effectivement mondialisé, où l'importance de l'univers numérique, de la mondialisation des systèmes de communication, etc., est absolument à l'inverse de cette situation, et ne supporte que très peu des marges. On voit bien comment tout ça essaye d'être constamment ramé dans des monopoles, dans des grandes structures qui s'appellent Amazon, Google, etc. Et comment la parole disparaît dans ces cas-là. Donc c'est se battre pour garder la parole, pour donner la parole, pour la reprendre en termes de la prise. Donc c'est cette démarche que chacun d'entre nous peut faire dans le quotidien, mais qu'on doit aussi essayer de faire plus collectivement. Et là, ça devient très difficile. Moi, je sais que personnellement, j'ai essayé une aventure folle, puisque j'ai accepté un poste de vice-ministre de la culture de Nicolas Sarkozy, en me disant, je vais aller jusqu'au bout de cette idée, je vais aller carrément dans le centre, et je vais foutre le bordel dans le centre. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le centre ? Toujours autour de l'idée, parce que j'en ai toujours entendu parler, qu'il fallait être à l'intérieur, extérieur, et que les combats, on les menait plus, qu'il fallait mener les combats de l'intérieur plutôt que de l'extérieur. C'est une vieille idée que j'avais ingurgitée au Parti communiste quand j'y étais, que les trotskistes utilisent allègrement en permanence. Bon, je me suis dit, peut-être qu'ils ont raison, moi je suis toujours considéré en marge. Donc j'ai essayé le centre. Il ne faut surtout pas faire ça. C'est une catastrophe. On ne peut rien faire. Les structures françaises sont telles actuellement que vous êtes totalement laminés et dans l'impossibilité de faire quoi que ce soit. Et donc, c'est donc pas la bonne voie. Alors, j'ai fait des choses. J'ai fait des choses plutôt chouettes, mais qui sont détournées, raptées. J'ai fait, par exemple, vous avez peut-être entendu parler d'un truc qui s'appelle l'Orchestre Demos. L'Orchestre Demos, je vous le dis en deux mots parce que ça vous intéresse, parce que ça vous donne des exemples de ce qu'on peut faire. Parce qu'on peut faire plein de choses dans ce pays qui est génial, mais encore faut-il s'y mettre. L'Orchestre Demos, c'est l'exemple d'un orchestre d'enfants mis en place au Venezuela et qui éduque les gamins des favelas par la musique intensive et orchestrale. Ça a débouché sur des centaines de milliers de mômes qui sont passés par ces orchestres, et puis certains ont été éduqués, ont appris des codes, ont appris à lire la musique, à défaut peut-être de lire le vénézuélien. Mais surtout, ça a aussi donné de très grands musiciens. Je me suis dit, s'ils font ça, pourquoi est-ce que je ne le ferai pas aussi? Et donc, j'ai lancé un projet sur 400 enfants de la région parisienne qui mettait en place un binôme éducateur, musicien, pour apprendre à des enfants dans un grand malaise, entre 7 et 12 ans, amenés par les éducateurs, la musique de façon intensive. Et par la musique, leur redonner, les restructurer, les ramener à l'école, les ramener dans leur famille même, etc. Et avec un objectif, 6 mois plus tard, ils devaient jouer à Saint-Pierre. Ben, extraordinaire résultat. Extraordinaire résultat. J'ai obtenu que cet orchestre, cette expérience soit prolongée après mon départ. Maintenant, c'est devenu un plan national. Il y a sans doute à peu près 5000 enfants qui sont déjà dans ce type d'orchestre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les musiciens ont pris le pouvoir et ont quasiment éliminé les éducateurs. Voilà. Parce que l'argent est passé par le ministère de la Culture et il a été donné à la Philharmonie de Paris. Et c'est les musiciens qui ont l'argent